C'est Laura, on est sur Divergence et je vous accueille pour cette toute première émission de Terrain Vague. Je suis avec Bruno qui va m'aider à me guider dans ce premier épisode de cette première émission. Bonjour Bruno.
Bonjour Laura, on est ravis de te recevoir sur les ondes de Divergence FM.
Je suis ravie d'être ici.
Ah ben oui, ben nous en tout cas c'est une thématique, l'art de rue, le street art et d'autres choses, hein, on en reparlera,
oui.
Que l'on voulait aborder depuis très longtemps sur les ondes de Divergence FM et avec ta venue. C'est ce qu'on va faire pendant toute cette saison. Donc
ouais.
Tu l'as dit, l'émission s'appelle Terrain Vague.
Oui, c'est... Terrain Vague. Et ben, Terrain Vague, alors pour ceux qui connaissent et puis pour ceux qui ne connaissent pas, ben, le Terrain Vague, c'est un terrain où les graffeurs aimaient aller graffer justement. Ils n'étaient pas dérangés, c'était un peu déconstruit, un peu à l'abandon. Et ben, du coup, il y avait forcément des murs propices du coup. Alors, je ne vais pas dire au vandalisme parce que non, ce n'est pas chouette de dire comme ça, mais du coup au graffiti. Et c'est Franck Noto qui m'a suggéré ce nom. Mm-hmm. Et je suis ravie parce que moi, j'aime beaucoup Terrain Vague et je trouve que ça colle très bien à l'émission.
Laura, avant de te présenter l'association Line Up, parce que tu travailles à l'association Line Up, du coup, il y aura des ponts qui se feront entre Divergence et l'asso Line Up. Est-ce que tu pourrais nous faire un tout petit historique pour les gens qui ne connaîtraient pas un petit peu du graffiti, du street art, alors ça, aux États-Unis très court et puis en France surtout c'est là où ça va nous intéresser le plus.
Bah, le graffiti, alors avec mes connaissances, hein, parce que du coup moi j'ai débarqué là-dedans, j'étais complètement novice, donc ça fait à peu près 3 ans et demi que je m'instruis. le graffiti, c'est un courant qui est né plutôt à New York, donc aux États-Unis, années 80, donc avec les métros new-yorkais, etc. Et ça s'est très vite exporté en France et notamment Montpellier, qui est quand même une ville, je veux pas dire le berceau, mais en tout cas qui est une des places fortes du graffiti en France.
D'accord.
On n'a qu'à faire un tour dans le quai du Verdanson pour s'apercevoir que c'est un haut lieu du graffiti. Et de là, en fait, est né un peu le mouvement du street art et cette appropriation de la rue par l'art. Donc ce qu'ont gardé les street artistes qui ne sont pas tous issus du graffiti, ont gardé ce côté entre guillemets vandalisme, mais je ne veux pas du tout l'utiliser au sens péjoratif du terme, plutôt dans le sens où on va peindre là où on ne nous a pas demandé d'aller. Mais du coup, c'est ça qui est cool parce qu'on se réveille le matin et il y a des nouvelles œuvres, donc il y a toujours de la découverte. Et à Montpellier, on a de la chance parce qu'on a, le quartier Méditerranée qui est vraiment un musée à ciel ouvert et on peut voir plein d'œuvres.
Ce que tu dis, musée à ciel ouvert, c'est très intéressant sur cet art, je trouve, qui est le street art et surtout le graffiti. C'est-à-dire qu'on se balade dans la rue et en fait, c'est le seul art en fait, qu'on peut voir en permanence, peut-être avec l'architecture et le design, on va dire.
C'est ça, exactement. C'est ça qui est cool avec cet art-là, c'est que il est accessible à tous. En fait, hein, il suffit de lever les yeux. On n'a pas besoin de rentrer dans un lieu d'art, même si c'est très cool. Aller au musée, c'est chouette. mais là, en fait, ça touche vraiment toutes les populations. C'est ça qui est vraiment cool. Tout le monde peut s'exprimer, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et c'est ce qu'on prône, nous, justement, à l'asso, c'est de rendre l'art accessible à tous. Quoi.
D'accord. Allez, on passe sur Line Up.
Yes.
Alors, ça fait combien de temps? Pourquoi Line Up? Et quelles sont les directions?
Alors, Line Up est né en 2015 et c'est parti en fait d'un constat qu'il n'y avait pas de lieu avec des ateliers.
D'accord.
En fait, à Montpellier, on a beaucoup d'artistes. Vraiment énormément d'artistes, nous on le voit au quotidien, mais il n'y a pas de lieu pour les accueillir, on ne peut pas leur proposer de lieu de travail, ils bossent soit chez eux, soit dans des appartes qu'ils partagent en coloc pour faire plusieurs ateliers, et du coup Franck Noto qui est le parrain de l'association, et Kenny, qui est sa compagne, qui est la directrice de l'association, sont partis de ce constat-là, en fait. Elle l'aidait dans sa carrière, et du coup, ils se sont dit, y a quand même quelque chose à faire, dans le sens où il y a un accompagnement nécessaire à apporter aux artistes, qu'ils soient jeunes ou pas. Et il y a surtout une demande de lieux de travail, comme on a des zones de coworking qui poussent dans tous les coins de la ville aujourd'hui.
Ouais.
En fait, il nous manque des espaces de création pour les artistes.
D'accord.
Donc, ils ont trouvé le lieu qu'on a aujourd'hui, donc les ateliers Ernest Michel. Et de là est né Line-Up. Donc du coup, on a 600 mètres carrés sur plusieurs niveaux. Ouais. Et on a des ateliers que les artistes partagent en résidence permanente, parce que forcément, vu qu'ils ont trouvé le lieu, ils partent plus de là. et c'est né de ce constat-là. Et aujourd'hui, en fait, on fait le même constat, si ce n'est encore plus criant, que y a toujours plus d'artistes. Mmh. On le voit, hein, je veux dire, je reprends l'exemple du quartier méditerranéen. Ouais. On a énormément de jeunes artistes en fait qui se lancent et qui font ça pour l'instant chez eux. Et nous, on est très sollicités. Justement, on nous demande est-ce que vous avez des places vacantes dans vos D'accord. ateliers, etc. Non, malheureusement, on n'a pas de places vacantes. Donc voilà, donc du coup, Line-Up est né de ce constat-là, du manque de lieux et de l'accompagnement qu'on peut faire aux artistes. Mmh. Et c'est un des axes du coup de travail de l'association, c'est le côté pépinière de l'association, ouais. où on va accompagner les artistes à se professionnaliser. Donc ça peut prendre diverses formes.
Ouais, ça se passe comment justement ?
Voilà, alors ça va être de l'accompagnement par exemple administratif, mm-hmm. parce que la paperasse...
C'est 49% du boulot, on va dire.
Voilà, c'est ça. Et puis on est toujours... on n'a jamais envie d'y mettre, ouais. de mettre les mains dedans, mais il faut y aller. Donc du coup, on les aide un petit peu à... Pour les jeunes artistes, en tout cas, ceux qui démarrent, ça va être tout ce qui est inscription à la maison des artistes, ouais. Les devis, les factures, etc. Enfin voilà, du conseil, de l'accompagnement. Et puis, ça va être surtout de les solliciter pour travailler. Mm-hmm. Donc, quand l'univers de l'artiste s'y prête, on va les solliciter pour travailler sur tel ou tel projet. Mm-hmm. Donc, du coup, eux, ça les permet de travailler, de commencer à se faire un réseau, de commencer à se faire connaître, mm-hmm. d'avoir quelque chose à montrer aussi. Donc voilà, il y a tout cet aspect d'accompagnement qu'on fait franchement tous les jours, un peu tous les jours en tout cas, avec les artistes. Il y a un deuxième grand axe de travail, c'est tout le côté médiation et transmission de savoir.
D'accord, ça se passe comment ça ?
Alors ça va être sur plusieurs activités, donc par exemple des visites guidées. Mm-hmm. Donc on en anime une avec le musée Fabre, oui. donc ça c'est assez inédit, et puisque oui. du coup les gens commencent au musée et finissent dans les rues du quartier méditerranéen.
D'accord.
Donc du coup voilà, on a ce parallèle à faire entre art classique, art urbain, et observer quel peuvent être les similitudes, en tout cas, entre les deux.
C'est vachement bien, ça, ce côté transversal de l'art, c'est dire qu'il n'y a pas un art qui en vaut plus un. Que...
Exactement. En fait, on les met vraiment au même plan et les gens, les visiteurs, observent qu'il y a... Bon, forcément, c'est l'art urbain qui s'inspire plutôt de l'autre.
Mais parce qu'il est venu dans le temps plus tard. Et encore que, sur les grottes de Lascaux, c'était de l'art urbain.
Exactement, exactement. C'était du graffiti à l'époque. Et donc, on a cette visite-là. Qu'on anime, on lance une visite par mois, mm-hmm. en tout cas, la prochaine c'est le 20 septembre à 16h, mm-hmm. pour ceux qui souhaitent s'inscrire auprès du musée. On fait des visites guidées au quartier méditerranéen.
D'accord.
Donc là justement on travaille avec notre guide qui va nous proposer quelques nouveaux formats de visites, un peu plus thématiques. Mm-hmm. On lancera la com très bientôt, donc restez avec nous. on a ces visites-là donc, qui permettent justement de découvrir ce milieu, peut-être de déconstruire un peu les préjugés ou les oui. a priori qu'on peut avoir, donc ça c'est plutôt cool. Et on a toutes sortes de publics, donc ça c'est vraiment chouette. Et après, la médiation, elle se fait aussi avec les ateliers.
D'accord.
Donc les ateliers, ça va être avec toutes sortes de publics. On travaille beaucoup avec les scolaires. Mmh.
J'imagine qu'il doit y avoir une demande là-dedans.
Il y a vraiment une grosse demande des scolaires et de tous âges, que ça aille de la maternelle jusqu'au lycée. On peut D'accord. toucher vraiment tout le monde. Et là, ça va être des initiations. Donc soit ça va être vraiment très graffiti et là on va apprendre à faire du lettrage, mmh. à composer son graphe, à se trouver un nom d'artiste, etc. Puis à le faire sur papier. Et sur mur, parce que quand même, c'est plus cool, quoi. Ou alors, ça peut être, du coup, une initiation sur une semaine avec un artiste en particulier.
D'accord.
Donc, par exemple, Mara, qu'on recevra ouais. dans la semaine prochaine. et là, on va découvrir à la fois son univers, son parcours. Et il va animer plusieurs séances d'atelier. Où les élèves vont réaliser soit des œuvres individuelles ouais. avec une petite exposition à la fin pour la restitution, soit une œuvre collaborative si y a un mur qui s'y prête dans l'école. Voilà. Ces ateliers-là, ben, on les mène effectivement souvent avec les scolaires, mais ça peut être dans des quartiers, ça peut être les vacances apprenantes, ça peut être beaucoup de dispositifs variés. Quoi.
C'est quand même fantastique, je trouve, ce que vous faites, parce qu'au début de l'émission, on a parlé du vandal, et là, en fait, il y a un côté, ça s'institutionnalise, ça rentre un petit peu dans les clous, ça devient, bon, ça l'était déjà, mais ça devient un art à proprement parler, où même des enfants d'école viennent s'initier à ça, alors qu'à l'époque, c'était... Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, les réactions des gens,
ah, oui.
C'est horrible, c'est moche. Alors que non, en fait, ça s'est vraiment inséré dans la ville. Même.
Ouais, et même maintenant, on a travaillé avec un prof d'anglais au lycée Joffre l'année dernière, avec qui on devrait retravailler cette année, avec un projet. Et lui, pour ses élèves de seconde en anglais, ben, il a une partie de son programme qui est dédiée au graffiti, au street art.
D'accord.
En plus, enfin, je veux dire, si on prend... Ben, alors, effectivement, il y a le graffiti aux États-Unis, etc. Mais en Angleterre, c'est un haut lieu aussi. Enfin, Londres, Camden, Bristol, etc. C'est vraiment des hauts lieux du graffiti et du street art. Donc, c'est, culturellement, c'est déjà là, quoi. Mm-hmm. Donc, ben, c'est un super axe d'apprentissage pour les gamins, pour apprendre l'anglais et aussi pour se familiariser avec ça.
Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que peut-être que le street art, notamment dans certains pays où les gouvernements sont un peu dur, c'est une façon de revendiquer des choses.
Exactement, mais complètement. Bah alors voilà, on a l'exemple de Banksy, hein, qui du coup dénonce énormément de choses, la surconsommation, enfin la société de manière générale. Mm-hmm. Et bah, beaucoup d'artistes se sont appropriés ce médium qui est du coup l'art sur le mur, mm-hmm, pour dénoncer des choses. Bah, par exemple, je prends ce qui me vient à l'idée, c'est le collectif Nous Toutes, du coup, qui fait du collage pour transmettre des messages féministes forts.
Ouais, on les voit un petit peu partout dans la rue.
Exactement, Et on a beaucoup de femmes artistes aussi qui se servent de leur art pour aussi revendiquer et militer pour leur cause. Donc, c'est devenu un médium porteur d'un message en plus d'être de l'art, quoi. Mm-hmm.
Allez, on revient sur line-up, justement. Yes. Alors, on parlait des artistes. Mm-hmm. Quels sont-ils, ces artistes?
Alors, on en a plein, on en a pas mal. Donc, nous, on partage, du coup, notre espace de travail avec plusieurs artistes. Ils sont 2, 4, 5, 6, 7, on va dire 8. On a Asto, par exemple, qui est un jeune artiste montpelliérain, issu du graffiti, qui a fait évoluer son style vers ce qu'il appelle le graffuturisme.
Wow.
Ouais. Donc c'est un mélange. Voilà, il a gardé des codes du graffiti et il en fait maintenant quelque chose de très géométrique, de très coloré.
D'accord.
Où en fait, il va replacer les lettres de son nom d'artiste, pardon.
D'accord.
Mais de manière hyper géométrique. Voilà, et c'est tout dans la composition et dans la perspective. Il fait aussi des anamorphoses. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des œuvres un peu déstructurées, mais qu'on ne peut voir en entier que si on se place à un certain point de vue. Mm-hmm. Donc il est très très fort pour ça.
Ça va loin.
Ça va très loin. Il y en a une très belle à voir à Juvignac qu'il avait réalisée dans le cadre du festival 34 degrés qu'on menait avec la ville de Juvignac.
Donc ça veut dire que derrière les festivals, les communes décident de garder les fresques.
Bien sûr.
Et c'est pas du temporaire.
Ah non, là c'est de la commande, c'est une demande de la ville. On est sur un festival mené avec la commune et les œuvres sont là pour rester toute la vie.
C'est génial.
Et du coup, pour la petite actu d'Asto, il sera présent au festival, au salon Solidart, mm-hmm, qui aura lieu ce week-end du 22 au 24. Ensuite, il partage son atelier justement Asto avec Enaer.
Ouais.
Donc Enaer aussi, c'est un artiste d'ici aussi, enfin qui en tout cas qui est installé à Montpellier depuis très longtemps déjà.
Ouais.
Issu du graffiti aussi et qui en a conservé quelques codes, mais qui s'en est quand même pas mal éloigné. Il fait quelque chose de lui pour le coup de figuratif. Il va mêler les personnages avec des éléments graphiques et il joue beaucoup sur les échelles.
D'accord.
De grandeur. La perspective, il questionne un peu notre façon de voir les choses notre perception des choses. Mm-hmm. Lui aussi, il a des petites actus. Alors, une grande, grande fresque que vous pouvez voir, elle est sur l'immeuble, le Saint-Roch Social Club, qui est juste à la gare, en fait.
Ouais.
C'est un très grand immeuble qui fait un peu.
C'est le nouvel immeuble là qui est sorti.
C'est ça,
il y a
exactement,
pas longtemps,
avec un super resto en bas. Ouais. Bah, lui, il a fait une très, très grande fresque qui donne sur les rails. Donc, on peut pas la rater, franchement.
Et ça, pareil, c'est des commandes de la ville, c'est des commandes de promoteurs.
Commandes de promoteurs.
D'accord.
Commandes de promoteurs. Voilà, il fallait animer cette gigantesque façade, et c'est lui qui a remporté le concours, on va dire. Et son actu à lui, c'est qu'il va faire une belle fresque à Carnon là à partir de la fin du mois.
Donc le graffiti s'exporte vers la mer.
Exactement. Il est partout. On continue du coup notre petite présentation des artistes. On a Mara, donc comme je disais, qui sera avec nous pour la prochaine émission. Mara, artiste complètement montpelliérain, qui est connu pour ses nombreux collages, avec ce personnage en noir et blanc, avec une croix sur le visage.
Ah oui.
Donc ce perso, c'est un peu le porte-voix de, bah, de sa vision de la société. Mmh. Il véhicule pas mal de messages à travers ce personnage-là. Et bah, par exemple, le dernier projet sur lequel on a bossé avec lui, c'était à la base nautique des Garrigues, donc quartier La Paillade.
Ouais.
Vous le savez pas, mais il y a un lac.
Oui.
C'est assez étonnant, mais il faut le dire quand même. Et il a habillé en fait la maison du lac. Et en fait, pour la petite anecdote, c'était un lieu où quand il était gamin, il allait tout le temps dessiner là-bas en fait.
D'accord.
Donc du coup, c'était plutôt cool que ce soit lui qui s'approprie les murs de ce lieu-là. Et pour la petite actu, bah lui, ce sera l'exposition Nachav à venir la semaine prochaine, vernissage la semaine prochaine à Lunel, le vendredi 22 à partir de 19h. Mais j'en dirai plus pour la prochaine émission.
Ça marche.
Mara, bah, il partage son atelier lui aussi. Hein. On a des colocataires chez Ernest Michel avec l'excellent Noluck, qui est un artiste ardéchois basé à Montpellier depuis de nombreuses années. Et lui, bah, il travaille sur quelque chose de complètement différent puisqu'il a inventé son propre alphabet.
D'accord.
Et donc son propre langage. Qu'on dit asémique, donc ça veut dire qu'il n'a aucun sens.
D'accord.
Voilà, donc pas la peine d'essayer de trouver des sens à ce qu'il dit. Il s'est inspiré de langages oubliés, d'écriture ancienne pour créer ce propre alphabet, enfin son alphabet. D'accord. À lui, quoi. Et c'est un artiste qui travaille sur plein de médiums différents. Il peut travailler sur de la toile, il va travailler avec beaucoup de matériaux, avec du bois, avec du polystyrène, avec beaucoup de récup. Voilà, il est vraiment étonnant, il a une créativité sans limite, il est hallucinant. Et là, vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai un tatouage à lui sur l'épaule.
On le mettra en photo sur le site internet de la radio.
Yes, voilà, c'est ça.
Et ça veut dire que là on dépasse la bombe sur le mur, quoi.
Ah c'est... ben complètement. Par exemple, Noluck est pas du tout issu du graffiti.
D'accord.
Pour le coup.
D'accord.
Lui, voilà, il a fait l'ESMA, si je me trompe pas, en design graphique.
Ouais.
Mais c'est pas du tout le graffiti. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que les artistes avec lesquels on travaille ne sont pas du tout tous issus du graffiti. Mmh. Certaines viennent des beaux-arts. Hein.
D'accord.
C'est le cas de Adore, avec qui on fait l'expo avec Mara la semaine prochaine à Lunel. Bah, alors oui, il a fait du graff. Mais il a fait des études dans les beaux-arts.
D'accord.
Voilà, il y en a qui viennent de l'ESMA ou de d'autres écoles. Il y en a qui sont complètement autodidactes, qui viennent pas du tout d'un endroit en particulier. Donc ça touche. En tout cas, c'est n'importe qui. Et il y a pas de chemin à prendre pour ça, quoi. En fait, tu dessines et ça te donne envie, ben t'y vas.
Mais c'est là où on voit que cette culture, parce qu'on peut dire que c'est une culture comme le hip-hop, généralement, transcende en fait les limites qu'imposait cette culture où il fallait aller le soir sur des bords d'autoroute pour graffer. Là on sent que ça, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, notamment avec les visites du musée Fabre jusqu'au quartier Méditerranée. Voilà, là on sort de la rue pour y rentrer par un autre biais. Enfin, je trouve ça super intéressant.
Exactement. En fait. Maintenant, on a pas. Alors, forcément, le graffiti, c'est ce qui a lancé tout ça. Mais maintenant, voilà, il y a plus du tout cette vision de où on doit se cacher, on doit faire ça, aller dans des dépôts de train sans être vu, etc. Enfin, voilà. Bon.
Ça existe encore.
Oui, voilà, faire du graffiti sur un métro, c'est toujours. On ne doit pas le faire.
Et puis, il y a l'adrénaline qui.
Et c'est ça. Maintenant, ça a ouvert la porte, en fait, à l'expression. En extérieur à tout le monde. Mmh. Et maintenant, c'est plutôt bien vu.
Ouais.
Et du coup, comme on le disait tout à l'heure, les communes, les villes, les métropoles font appel à des artistes ou à des structures comme la nôtre pour mettre en place des projets comme ça. Mmh. On continue
avec
notre
Mathieu
petit
Lucas.
Tour d'horizon. Voilà. Mathieu Lucas, du coup, qui était connu avant sous le pseudo de Yen, issu du graffiti, artiste nantais installé à Montpellier depuis quelques années déjà maintenant. Et qui évolue en galerie aussi. Et
D'accord.
ça, c'est important de le dire, je pense, c'est qu'aujourd'hui, les artistes qui sont dans la rue, ils sont aussi en galerie.
D'accord.
En galerie d'art. Ils sont aussi dans des lieux d'exposition, comme à Pierre-Vif, par exemple. Mm-hmm. À Pierre-Vif, on a fait une super expo l'année dernière pour les 400 ans de Molière.
Oui.
Et du coup, en fait, voilà, ces artistes-là, qu'ils soient ou non issus du graffiti, bah, ils ont leur place aussi dans des lieux d'expo comme les grands peintres de l'époque. Et c'est bien de le dire parce que du coup, ça casse aussi un peu l'image que peuvent avoir certains gens de toujours ce côté un peu vandale. Voilà. Donc, Mathieu, ben, effectivement, il évolue en galerie. Ben, lui, il travaille vraiment sur un thème très général et qui nous touche aujourd'hui tous, c'est le dérèglement climatique, de manière vraiment globale, sans aller trop dans les détails. Voilà, il va dénoncer et il va dire des choses, mais sans jamais adopter un ton moralisateur et sans jamais dire bah, « c'est mal ce que vous faites », etc. Voilà, parce que personne n'est parfait, on en est tous conscients. Mais voilà, lui travaille vraiment là-dessus. Et sa petite actu, c'est qu'il va faire sa prochaine expo solo, c'est à la Galerie Nicolas-Xavier, au mois de novembre. Et on le recevra d'ailleurs pour en parler. Je continue mon petit tour avec Belaba.
Ouais.
Belaba, c'est un artiste guinéen. Complètement autodidacte, mais qui a toujours dessiné. Et il travaille ben, du coup sur la culture guinéenne, donc ça va être beaucoup de portraits, donc c'est très figuratif.
Ouais.
Du portrait avec des couleurs et des motifs ben, qui nous rappellent la culture africaine et guinéenne en l'occurrence, donc il travaille là-dessus. Et vous pourrez le voir ce week-end à Solidarte aussi, n'est-ce pas ?
Beaucoup d'actu. Hein,
beaucoup d'actu, beaucoup d'actu. Et on poursuit ce petit tour avec Franck Noto. Alors, est-ce que je dois le présenter ou pas ? Je ne sais pas.
On connaît, mais il faut pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, présentons-le.
Qu'il connaissait sous le nom de Zest à l'époque. Bah, complètement issu du graffiti, hein, ça c'est sûr. Il en conserve quelques codes encore aujourd'hui. Et il évolue en galerie.
D'accord.
Voilà, aussi chez Nicolas Xavier, chez Adown aussi à Montpellier, et c'est le parrain de Solidarte cette année.
D'accord.
Donc vous pourrez le voir ce week-end au Zénith pour le salon Solidarte.
Courrez-y.
Enfin, je finis avec Zico, qui est un ami de longue date de Franck Noto, du coup issu du graffiti aussi, et qui lui anime nos ateliers, nos stages pendant les vacances.
D'accord.
Voilà. C'est l'artiste qui va prendre les enfants, qui va intervenir, bah, souvent qui intervient du coup avec les scolaires, et qui va animer ses stages. Donc voilà, il va leur apprendre en fait un peu toutes les petites techniques du graphe. Il a pas mal de bouquins, il a plein de médiums et il va les emmener dans cet univers du graffiti. Voilà,
et puis de leur expliquer un petit peu tout ce dont on parle depuis le début de cette émission, l'histoire.
Exactement, un petit peu d'historique. On va aller sur les différents styles de lettrage parce qu'on a, dans le graffiti, on a beaucoup de styles différents.
Est-ce que ça ressemble à de la calligraphie un petit peu de
temps mais complètement. En temps. Ouais. Enfin, en tout cas, à mon sens, oui, complètement. C'est de la calligraphie. Bah, du moment où on apprend à dessiner des lettres et qu'on leur donne un certain style, c'est de la calligraphie. Et puis en plus, ça peut être avec des outils complètement différents. Hein. On peut dessiner au crayon, au stylo, au feutre, au Posca, etc. Donc tous ces outils-là vont donner un trait différent aussi à la composition, au graffiti. Donc pour moi, c'est complètement c'est complètement de la calligraphie, c'est clair. Moderne. Mais quand même.
Et alors moi, ce qui m'attire un petit peu l'œil dans toutes ces résidences, il n'y a pas beaucoup de femmes.
Non.
c'est dur.
C'est nous. Alors quand même, l'équipe de line-up, c'est 3 femmes.
Ah bon, ça...
Non, c'est vrai que c'est... Je le vois après jour, c'est quand même un milieu qui est très masculin.
Ouais.
Selon les projets qu'on a, on essaye de proposer des femmes, si le style convient en tout cas, et si la demande convient, voilà, on fait en sorte d'incorporer des femmes, parce que nous aussi, hein, on veut un peu plus de parité, un peu plus de femmes dans nos projets, mais c'est pas toujours évident. Elles sont pas nombreuses. Après, on a la chance de travailler avec des artistes féminines très talentueuses. Ouais. On travaille beaucoup avec Noon, par exemple. On travaille beaucoup avec Noon, qui a beaucoup de talent, qui a un style vraiment très à elle et très très reconnaissable. Voilà, entre art déco, formes géométriques, éléments végétaux, etc. Elle a une palette de couleurs que, pareil, c'est vraiment son identité. En ce moment, on travaille avec une artiste espagnole qui s'appelle Elisa Capdevila, qui fait quelque chose de plus figuratif, qui se rapproche vraiment de quelque chose de classique parce qu'elle travaille par touche.
D'accord.
Donc on a vraiment l'impression de voir un tableau prendre forme sous nos yeux sur un mur. On travaille beaucoup avec Clara Langelaise aussi. qui elle fait autant de la fresque que du volume. Ça aussi c'est cool parce que nous on veut pas forcément faire que de la fresque.
Et oui.
On veut se tourner aussi vers du travail en volume. Donc c'est chouette d'avoir des artistes qui se lancent dans des constructions différentes, quoi, dans des créations différentes. Donc voilà, c'est pas toujours facile de trouver des femmes, c'est vrai, dans ce milieu, mais on a la chance.
C'est comme en radio, hein.
C'est
un milieu très masculin qui a tendance à se féminiser, et c'est très bien.
Eh bien, tant mieux. Je suis ravie de...
Et puis j'imagine que toutes les actions que vous menez, notamment avec les ateliers, ça permet justement de démocratiser ça, on va
exactement.
Dire.
Exactement. Du coup, voilà, on a des petites filles dans ces classes-là, donc on leur fait des découvrir ce milieu. Alors bon, ça reste une introduction, hein, parce que on peut pas non plus en une semaine ou en quelques heures leur montrer tout, mais ça leur permet de voir que elles aussi elles peuvent si elles en ont envie. Et puis ça permet de toute façon, de manière générale, de laisser libre cours à son imagination, de voir qu'il y a plein de styles possibles, que le dessin, c'est pas forcément une composition avec une maison, un arbre, etc. Voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être complètement abstrait et ne pas ressembler à quelque chose qu'on connaît. Oui. Ça, c'est hyper important aussi, je pense, pour les enfants, de leur dire qu'ils peuvent dessiner quelque chose qui n'a pas forcément de sens comme ça visuel, mais en fait, si.
Mais ça peut être beau.
Exactement, ça peut être beau et ça peut avoir du sens pour eux, donc c'est ça qui est cool. Et cet éveil-là, il est hyper important pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, pour tout le monde, quoi.
Il nous reste 2 minutes, Laura.
Oui.
En tout cas, moi, voilà, je tenais à dire qu'on est ravis à Divergence FM de t'accueillir sur
la nouvelle. Moi, je suis ravie que vous m'invitiez. Moi, je suis trop contente d'être là.
Et donc, cette émission, vous le savez, chers auditeurs, puisque vous êtes en train de l'écouter, c'est diffusé tous les mardis à partir de 18h. Vous avez tous les podcasts sur le www.divergence-fm.org. Et la semaine prochaine, tu reçois, on en parlait tout à l'heure.
Oui, Mara. On va parler de l'expo Nachav et du projet à Lunel avec Mara la semaine prochaine. Je suis ravie de l'avoir comme première invitée et j'ai hâte de partager ça avec vous.
Merci beaucoup, Laura.
Merci.